1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon?
Oui, maintenant c'est Claire Morin qui s'empare des ondes de Fréquence Zik sur l'instant collectif. Gardez l'écoute, c'est tous les événements impératifs du collectif Synergie.
Bienvenue dans cette émission dédiée au Salon littéraire généraliste à Livre ouvert, créé en 2019 par l'association Collectif Synergie à Brest. À cause de la Covid, cette année, nous n'avons pas pu organiser la deuxième édition du Salon, elle est donc reportée à 2021. Cependant, j'ai tenu à inviter des auteurs pour qu'ils nous parlent de leur univers. Tout au long de cette émission, vous découvrirez également des extraits de leur ouvrage. J'ai le plaisir d'accueillir Myriam Savary. Nous commençons par écouter la première chanson qu'elle a choisie, à savoir The Show Must Go On de Queen.
Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime.
Thank you.
Alors bonjour Myriam.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs?
Oui, alors je suis Myriam Savary, auteure de romans, surtout en fantasy, en science-fiction, space opéra, un peu comme Avatar, Star Wars, ça parle peut-être à certains. Donc je suis auteure depuis un peu plus d'un an maintenant, donc c'est encore tout jeune.
Quand tu sors tes ouvrages, est-ce que tu es en auto-édition ou est-ce que tu passes par un éditeur?
Alors j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Ça a été difficile, un long parcours du combattant, mais je suis maintenant éditée aux éditions Nouvelle Plume.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à écrire?
Oui. J'ai commencé, alors j'étais en plein projet d'études, j'avais bien avancé sur mon projet d'études et j'avais un petit peu de temps devant moi. J'avais une histoire qui me trottait dans la tête depuis très 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 longtemps, le genre d'histoire qui revient régulièrement tous les soirs. Et puis j'avais ces petits bouts qui me venaient, puis que j'oubliais et ça m'agaçait, je perdais des idées, je les retrouvais pas après. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre sur papier. Donc, j'ai commencé à écrire comme ça en me disant, surtout que c'était pour moi, quoi. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner plus tard. Et c'était il y a plus de 10 ans de ça que j'ai commencé ma première histoire.
D'accord. Et du coup, tu as soumis ces histoires-là à des personnes, à la lecture?
Oh, pas tout de suite. D'abord, il m'a fallu un bon paquet d'années pour oser les soumettre à mon mari, déjà. Et une fois que mon mari les a lus, a commencé à les apprécier, j'ai vraiment fini par les mettre en forme. Et une fois que ça a donné un véritable roman, j'ai essayé de le faire éditer. Bon, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, c'est rarement, surtout sur ce genre d'histoire-là, c'est rarement le premier jet qui fonctionne. Il y a toujours beaucoup de travail de réécriture derrière. Donc, j'ai réécrit longtemps. Et j'ai fini par réussir à finir un récit qui plaisait, donc qui a trouvé un public.
D'accord. Et du coup, j'ai déjà eu l'occasion de te parler avant. Tu m'as expliqué un petit peu quel était ton process pour faire connaître tes œuvres aussi. Tu m'as parlé de France Loisirs, je crois, aussi.
Oui, donc en fait... j'avais envoyé mon livre à beaucoup de maisons d'édition, mais ça n'avait rien donné. Donc, j'ai fait une énorme réécriture pour mon livre. Et à ce moment-là, il se trouve qu'on était à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je ne suis pas passée par les envois traditionnels vers les maisons d'édition parce que c'était très, très compliqué d'envoyer des énormes courriers comme ça jusqu'en métropole. Donc, du coup, je suis passée par Internet. Et par Internet, je suis tombée sur la plateforme Nouvelle Plume qui proposait à de jeunes auteurs français de soumettre leur manuscrit. Donc, on pouvait soumettre son manuscrit et voir déjà si il était accepté sur le site. Et le principe du site, ensuite, c'est donc que Nouvelle Plume permet à ses lecteurs qui sont inscrits sur le site de lire ses œuvres qui sont proposées et de donner leur avis. Et les œuvres qui réussissent à intéresser un maximum de lecteurs et à avoir des avis positifs, sont ensuite lus par le comité de lecture de Nouvelle Plume et éventuellement sont publiés. Donc, j'ai posté mon roman sur ce site-là. Et donc j'ai attendu, puisqu'on n'a pas du tout de nouvelles pendant un bon moment, il y a eu une inscription proposée au prix de l'imaginaire. À ce moment-là, le prix de l'imaginaire de 9, je me suis dit que j'allais cocher la case au cas où. Et il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai eu un petit coup de fil du président des Nouvelles Plumes à l'époque qui m'a annoncé que j'ai gagné le prix d'imaginaire. Et donc j'ai pu, comme ça, réussir à avoir un contrat d'édition. Donc c'était assez exceptionnel, je ne m'y attendais pas du tout, avec cette maison d'édition. Voilà.
Et du coup, depuis, tu publies avec eux?
Voilà, donc mon deuxième tome, puisque là, donc c'était le premier tome d'une trilogie. Mon deuxième tome de la trilogie Les Cires est sorti très récemment. Et Nouvelle Plume fonctionne en partenariat avec France Loisirs. Donc, ce qu'il se passe, c'est que, comme pour le premier tome, ils sont 6 mois en exclusivité chez France Loisirs, qui est le partenaire du concours du prix d'imaginaire. Et ensuite, ils sont publiés en librairie traditionnelle et disponibles partout. Donc le tome 1 qui est sorti l'an dernier est maintenant disponible dans toutes les librairies, donc Les Sires, la prophétie de Nokomis. Et le tome 2, La naissance de Caliera, est actuellement disponible uniquement chez France Loisirs et sera disponible dans n'importe quelle librairie au printemps 2021.
D'accord. Et comment t'es venue l'envie d'écrire plus de la fantaisie qu'autre chose, qu'un autre style?
Oui, je comprends. Bah, on écrit ce qu'on aime. Et je dévore, en fait, de la fantaisie, du fantastique, de la science-fiction depuis que je suis toute petite. Tous les livres que je peux trouver y passent. Et bah, clairement, c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'ai envie de lire. Et forcément, c'est là-dessus que je me suis orientée quand j'ai commencé à écrire. C'était ce qui était dans ma tête, déjà.
Alors, tu vas effectuer une lecture d'extrait d'un de tes ouvrages. Est-ce que tu peux nous dire de quel ouvrage sera extrait?
Oui, ça sera du tome 1 des Sires, donc La prophétie de Nokomis. Ça sera deux extraits. Un extrait où Liane, une des héroïnes, et pour la première fois en position difficile, ils se font attaquer. Et un deuxième extrait où elle apprend à maîtriser le don, qui est une des forces qui est développée dans mon univers.
D'accord, donc nous allons maintenant écouter le premier extrait.
Mais déjà, l'errant revenait à l'attaque. Cette fois, il visa les deux apprentis. Voyant l'énorme tête se tourner vers lui, revers glapi, lâcha son arme et tomba à terre, ses jambes incapables de le supporter. Tremblante de peur, Liane tendit sa lame en avant, face à la bête. Hier, elle n'avait eu qu'à abattre son sabre pour faucher des errants, déjà mourants. Ce soir, elle n'avait pas le même avantage. Elle se glissa progressivement sur la droite, se plaçant ainsi entre le monstre et le garçon. Paralysé par l'effroi, celui-ci s'était recroquevillé sur lui-même et hurlait. L'animal chargea. Liane crut sa dernière heure arriver. Elle pouvait sentir l'haleine fétide du monstre à présent. Toutes les leçons apprises en cours avaient disparu, effacées par l'horreur de la situation. Que faire? Le temps lui manquait. Tout se précipitait. Ses griffes, labourant la terre, la mort se jeta sur eux. Face à l'assaut, la jeune femme ferma les yeux, tâchant d'oublier les crocs qui déchireraient bientôt ses chairs. Elle frémit, mais ne bougea pas. Pourquoi faire? Des gouttelettes de boue aspergèrent son visage et le bruit d'une masse énorme s'écrasant remplit brutalement l'atmosphère. À travers ses paupières entrouvertes, elle contempla la forme sombre immobile à ses pieds, ses crocs étincelant dans la nuit. Bayer dégagea son épée du flanc du monstre. Il avait réussi à faire pénétrer la lame dans le creux entre le membre antérieur et le corps de la bête. Celle-ci s'était effondrée, permettant ainsi à Kale d'enfoncer son arme dans l'œil jusqu'à la garde, la tuant sur le coup. Un rugissement de colère jaillit derrière eux. Aux prises avec le second errant, Edine fatiguait et ses trois compagnons peinaient à maîtriser l'animal. Rendu fou de rage par la mort de son acolyte, il se jeta en avant pour atteindre revers, encore recroquevillé au sol. Profitant de la diversion, les quatre hommes enfoncèrent de toutes parts leurs lames dans le corps de l'animal, qui s'écroula à son tour, terrassé. Dans le silence qui suivit, Liane vit le maître Sire trancher d'un coup net la tête aux yeux éteints, pour s'assurer que les rangs ne bougeraient plus. Puis, se diriger vers le garçon prostré et le relever d'un geste brusque. Sa voix retentit dans la nuit, sonnant étrangement. On y va. le temps pressait. La conscience collective des errants avait alerté la meute de la mort de Dedeleur.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as produit depuis que tu as commencé ?
Alors, bah, du coup, j'ai produit le tome 1 et le tome 2 de ce qui sera une trilogie plus tard, des Cires. J'ai également produit une petite nouvelle pour essayer d'étoffer un peu mon univers. Et puis comme ça, en fait, les gens peuvent aussi un petit peu découvrir ma manière d'écrire. Cette nouvelle, elle est disponible d'ailleurs sur mon site internet, pour ceux que ça intéresse, myriamsavary.jimdaufry.com. Et en ce moment, bah, je suis sur le troisième et dernier tome.
Et du coup, tu as des délais assez courts, je crois, pour écrire.
Alors, on ne nous impose pas de délai, mais c'est vrai que les lecteurs sont très demandeurs, ont vraiment envie de savoir la suite, et je les comprends. Donc, on essaye de faire assez rapidement, de ne pas mettre trop de temps entre deux tomes. Donc, entre le premier et le deuxième, il y a eu un an. Là, le troisième tome va être beaucoup plus conséquent, donc il y aura sans doute un an et demi à peu près avant sa publication.
Et du coup, les nouvelles, c'est pour que les gens aient voir un petit peu ton univers et puis se raccrochent un petit peu, en fait, avec tes ouvrages.
Oui, c'était aussi une demande de certains lecteurs d'en savoir un peu plus sur certains points. Ça permet, voilà, de donner différents éclairages. C'est vraiment décorrélé de la trame principale de la trilogie. Par contre, ça rajoute et ça permet aussi aux lecteurs de patienter un petit peu en attendant la sortie du tome suivant.
Et du coup, les nouvelles sont vraiment reliées à tes romans ou pas du tout?
Alors, la première nouvelle que j'ai faite pour l'instant et qui est disponible, c'est un des personnages du premier roman. On découvre sa vie, son passé, en fait, avant la trame du roman. Et dans la seconde nouvelle que j'espère faire bientôt, ce sera sans doute, donc il y a un royaume et un empire, ce sera sans doute du côté empire qu'on connaît très peu, pour voir un petit peu comment est la vie là-bas.
Et est-ce que tu as œuvré dans d'autres domaines artistiques, mis à part l'écriture ?
Alors, je viens d'un domaine totalement différent, puisque j'étais ingénieure militaire, que je me suis reconvertie en tant que professeure des écoles, et je suis maintenant à mi-temps pour pouvoir écrire. Donc tout ça, ça reste quand même assez éloigné de tout ce qui est domaine artistique, même si en tant que professeure des écoles, l'art fait forcément partie de notre quotidien. On travaille avec les enfants en littérature, en art visuel, en musique, et à chaque fois, on crée quelque chose qui, pour eux, est véritablement de l'art, et on les sensibilise à ça.
C'est marrant parce qu'on a on a une autre auteure qui s'appelle aussi Myriam, dans le collectif, qui était aussi militaire avant et qui s'est reconvertie dans l'écriture, pareil, de fantasy.
Ben voilà.
Donc comme quoi... Faudra que vous vous rencontriez un jour.
Avec plaisir.
Et quels sont les artistes que tu affectionnes ou qui t'ont influencé, que ce soit dans l'écriture, la littérature ou dans d'autres domaines artistiques?
J'aime vraiment beaucoup la science-fiction, la fantasy, le fantastique, enfin tout ce qui est dans ce domaine-là. Donc je dévore, que ce soit en livre ou en film, à peu près tout ce qui me tombe sous la main. J'ai lu des blockbusters, forcément Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, en livre et en film. Il y a eu Avatar, La Guerre des Étoiles. On est aussi sur des classiques moins récents, comme 1984, Le Meilleur des Mondes. Dune parlera peut-être à beaucoup également. Un autre space opéra, Dune. La Nuit des Temps, etc., etc. Enfin, il y en a tellement, on pourrait passer... un bon moment à citer des noms. En auteur francophone aussi, j'en suis quelques-uns. J'aime particulièrement Georgia Caldera. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est de l'avoir en tant que marraine pour le prix de l'imaginaire 2019. Et j'adore sa manière d'écrire. Par exemple, avec ses Larmes rouges, mais plus récemment, elle a sorti un autre livre excellent, Les Brumes de Cendre-Lune, qui nous emmène dans des univers extraordinaires. J'ai trouvé ça vraiment super. Elle a une imagination débordante.
Et tu parles de space opéra, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, ce genre littéraire-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste?
Oui, pour faire simple, Star Wars, Avatar, Dune sont des space opéras. Donc ça va se passer dans des univers larges avec différentes planètes. On n'est pas forcément très technique. Moi, je suis très peu technique dans mes romans. Il faut vraiment pas s'attendre à une description de comment fonctionne le vaisseau. C'est vraiment pas les choses qui m'intéressent. Mais on parle quand même de space opéra puisqu'on est sur un univers avec de nombreuses planètes.
D'accord, et du coup, tu es plus sur la vie des personnages qui peut leur arriver, leur histoire?
Les émotions, j'ai une écriture beaucoup dans l'action, dans l'émotion. La description est là pour aider le récit, mais elle va pas être non plus très dominante comme dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on connaît bien, qui a des descriptions très très longues et qui fait aussi partie de la manière d'écrire de l'auteur. Voilà, je suis plutôt à l'opposé de ça.
Tu vas effectuer ta deuxième lecture, on l'écoute et puis je te retrouve après.
Liane ferma les yeux, concentrant tous ses sens sur le rythme qui palpitait dans ses veines. Élargissant sa vision, elle put voir la pierre qui vivait sous elle, la terre à la mesure tranquille. La jeune femme les laissa de côté, s'éloignant encore jusqu'à englober l'homme. La pulsation était rapide, concentrée au niveau des muscles de ses jambes, les dessinant dans un bleu pailleté à mesure qu'il se contractait. C'était simple et efficace. Déjà, elle agitait le dos en elle, le forçant à se regrouper dans les nerfs et les ligaments. Elle pouvait sentir ses tissus se gonfler sous l'afflux des particules. Son maître eut un hochement de tête approbateur et se remit à marcher tranquillement. Maintenant, comment devrais-tu faire pour qu'on ne te retrouve pas? La jeune femme ne savait que répondre. Aussi se tut-elle. Les mains dans le dos, le sire se pencha à son oreille pour y murmurer. « Écoute. » Reprenant sa marche tranquille, il expliqua. « Écoute le don autour de toi. Pas seulement celui de l'arbre ou de la terre. Tout autour de toi. Sens comme leur rythme s'entrelace. » Ses mains caressèrent un tronc, son regard s'accrochant à ses branches dégarnies. Le temps d'un moment, elle entrevit au-delà de la surface glacée de l'homme une tendresse que nul n'aurait soupçonnée. Puis, le charme fut rompu. Elle s'assit en tailleur, fermant les yeux pour écouter ce que son maître lui demandait. Les paupières closes, il lui était plus facile de se concentrer sur son dos. Le monde de couleurs bariolées faisait place à un flot de bleu scintillant, habité de pulsations enchevêtrées. Liane avait toujours admiré les vagues azur qui palpitaient, mais elle n'avait jamais jusque-là fait attention au son qu'elle produisait, formant une mélodie où plusieurs instruments s'entremêlaient harmonieusement. Celle des arbres était presque chantante, les pierres une basse apaisante. Trois oiseaux perchés étaient des instruments à la corde vibrante. Tu dois te fondre dans l'orchestre, n'y ajouter aucune note. La jeune femme concentra son attention sur le courant qui agitait le cirque et soupira devant la beauté du spectacle. Devant elle, l'homme s'harmonisait avec le don qui l'entourait, disparaissant à mesure qu'il s'accordait à la musique.
Bon, eh bien, Myriam, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation.
Mais de rien.
Donc, j'invite les auditeurs à aller découvrir un peu plus avant ce que tu fais aussi. Et je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, Claire. Au revoir.
Nous écoutons maintenant la chanson Résistance du groupe Muse. Ma deuxième invitée se nomme Charlotte Bonnor. Je vous invite à découvrir le premier morceau qu'elle a choisi, à savoir Obliviate d'Alexandre Desplat, extrait de la BO d'Harry Potter, Les Reliques de la Mort, partie 1. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs, s'il te plaît?
Bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Charlotte Bonnat. Je suis une autrice brestoise spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. J'ai commencé à écrire en 2012 et en 2018 a été publié le premier tome de ma trilogie.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le genre fantastique pour écrire plutôt qu'un autre genre?
Alors, en fait, j'ai pas vraiment choisi. Je dois dire quand même que depuis que je suis toute petite, je lis énormément de livres appartenant aux littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Donc c'est vraiment un univers que je connais très bien et vraiment je suis une grande, grande fan. Et en fait, en 2012, alors que j'avais absolument pas du tout prévu un jour d'écrire un livre, j'ai eu une histoire comme ça qui est apparue sans que je sache trop pourquoi. Et c'était l'histoire en fait d'une entité extraterrestre, enfin une entité immatérielle un peu fantastique qui fondait une arche de Noé dans le sol islandais. Et au fur et à mesure, j'ai créé des personnages, l'intrigue s'est dévoilée. Donc, je n'ai pas vraiment choisi d'écrire une trilogie d'anticipation et de fantastique. C'est vraiment plutôt l'histoire et les personnages qui se sont imposés à moi.
Et tu écrivais déjà avant que cette histoire ne naisse?
Pas du tout. Alors là, à part les dissertations au collège et au lycée, c'est à peu près tout ce que j'avais écrit dans ma vie. Et puis des articles scientifiques, mais alors là, ça n'a absolument rien à voir avec la fiction. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu comme ça, complètement par hasard, mais qui maintenant s'impose vraiment à moi, parce que je ne peux plus ne plus écrire. Si quelques jours se passent sans que j'ai écrit quoi que ce soit ou corrigé, je suis en manque.
Alors du coup, tu as sorti plusieurs ouvrages. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et des ouvrages que tu as sortis depuis que tu as commencé à écrire ?
Alors, en 2012, j'ai commencé à écrire le premier tome de la trilogie Avencel qui s'appelle Cité Noire. Et j'ai mis 2 ans à écrire ce qu'on appelle dans le milieu le premier jet. Et j'ai vu tout de suite que c'était très mauvais. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'améliorer ça. Et j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir comment corriger un roman et l'améliorer. Et j'ai découvert un site de bêta-lecture qui s'appelle Coxyclic, qui est en fait un site de bêta-lecture réservé aux littératures de l'imaginaire, où on peut poster des extraits de son roman au départ et ensuite le roman en entier. Et des gens vont faire ce qu'on appelle une bêta-lecture, c'est-à-dire une lecture critique et argumentée. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de vous dire que c'est mauvais, on vous explique où c'est mauvais, où c'est bon, et on vous explique pourquoi. Donc j'ai trouvé ça fantastique, j'ai adhéré tout de suite à ce collectif, et ensuite pendant 2 ans, j'ai corrigé. Il y a à peu près 2/3 du roman initial qui est parti à la poubelle, dire à quel point c'était mauvais. Et donc j'ai corrigé et parallèlement j'ai commencé à écrire le tome 2 de la trilogie. Et début 2018, j'ai envoyé les 2 romans en soumission aux éditeurs en expliquant que je commençais l'écriture du 3e. Et j'ai eu beaucoup de chance pour une primo-romancière, c'est d'avoir un éditeur qui a un coup de foudre pour l'histoire, pour Cité Noire, et j'ai une réponse assez rapide en moins de 6 mois, ce qui est très très rapide dans le milieu. Et le premier tome de la trilogie Avencel est sorti fin 2018. Voilà. Et ensuite, donc en avril 2019, le tome 2, et le tome 3, Cité Rouge, est sorti en plein confinement cette année, donc en avril et mai 2020. En version numérique et papier, ce qui n'est jamais très facile. Mais j'étais très contente d'avoir achevé cette trilogie et d'avoir aussi tenu mes délais par rapport au lecteur qui attendait le 3e tome avec impatience.
Ce sera extrait de ta lecture, s'il te plaît.
Alors, je vais vous lire un extrait du prologue de Cité Noire, donc, qui est le premier tome de la trilogie Avencel, qui est une trilogie... à la fois d'anticipation.
Alors, afin que les auditeurs puissent un petit peu découvrir ton univers, je t'invite à faire une lecture de ton premier extrait. Peux-tu nous dire de quel ouvrage est issu ta lecture, s'il te plaît ?
De fantastique, mais écrit aussi sous la forme d'un thriller. Obscurité, froid, faim, ce sont les seules informations que je reçois alors que je m'éveille de ce long sommeil. Mes souvenirs sont en lambeaux, mes sens primaires engourdis, et réduits à leurs fonctions basiques. Je patiente. La faim me dévore, m'affaiblit, laisse le froid pénétrer le moindre interstice de mon être, mais elle active en partie mes souvenirs. Je sais comment me nourrir désormais. Mes sens se déploient vers les profondeurs de la terre. Par leur intermédiaire, je détecte une source d'énergie. Mobilisant toute ma volonté, je me glisse entre les anfractuosités de la roche jusqu'à un lac de feu. Je m'y vautre avec délice et m'ouvre à la volupté de cette chaleur bienveillante. Enfin, je peux y satisfaire mes besoins primordiaux. Mes créateurs ont choisi avec sagesse mon lieu d'éveil. Je m'y développe avec harmonie, gagnant en vigueur et en autonomie. Pourtant, un vide apparaît en moi, une faim différente, une nécessité vitale. C'est le murmure là-haut qui l'a fait naître. J'entreprends mon ascension, avec prudence, vers ce bruit qui m'attire sans que j'en devine la raison. La composition de la roche évolue, les odeurs également. L'atmosphère perd son goût minéral, devient piquante. Le monde change de couleur. D'un noir d'encre, il pâlit en un bleu nuit, puis en un gris sombre. Lorsque j'émerge, une sensation douloureuse m'accueille. Je fouille dans mes mémoires. Pluie, vent, il s'agit d'intempéries fréquentes à cet endroit de la surface. Un nom surgit en moi, terre de glace. Je joue un long moment avec le vent. Les parfums multiples me ravissent et m'émerveillent. Je m'aventure toujours plus loin. Ma faim se manifeste à nouveau, car le murmure se réveille, une tentation trop forte. Je me déploie dans les strates du ciel. mes sens s'affinent. Le bruit se modifie avec subtilité, se transforme en émotion, en pensée, donnée en toute liberté, mais qui ne m'assouvissent que temporairement. Je me concentre. Certaines psychés semblent plus riches, plus flamboyantes. Elles me comblent. Il me faut à tout prix en trouver d'autres. Je me dirige vers des contrées de plus en plus vertes et m'ouvre aux pensées des flamboyants rencontrés au fil de mes pérégrinations. Ma félicité est de courte durée. Alors que je plane avec insouciance au-dessus de forêts de conifères, l'air vibre d'une manière malsaine, puis la soudaine détresse de milliers d'âmes me submerge, me noie. Je tente de me soustraire aux images terrifiantes, en vain. Les scènes cruelles s'imposent à moi, celles de charniers recouverts de cendres grasses, de bourreaux dont la jouissance à tuer souille mon être. Des noms mystérieux tourbillonnent vers moi, portés par une douleur infinie. Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Belzec. Mes sens se rétractent brûlés à vif. Je fuis vers le soleil levant, verrouille mon esprit, pour ne plus voir les visages et les silhouettes émaciées. Que s'est-il produit sur ces terres? Je n'ose me connecter à cette humanité, pourtant si prometteuse avec ses flamboyants, de crainte de subir de nouvelles blessures psychiques. Les territoires que je découvre sont ravagés par la terre, par la guerre. Où que ma vision se porte, je n'aperçois que champs calcinés, cités détruites ou forêts réduites à des souches d'arbres fumantes.
Merci beaucoup. Alors, quelles sont les personnes qui t'inspirent dans ton genre littéraire ou les artistes qui t'inspirent même au niveau musical pour écrire? Alors, je ne sais pas si tu te sers de musique pour écrire ou pas. Je sais que Myriam, qui partage l'émission avec toi, se sert beaucoup de musique pour écrire. Est-ce que c'est ton cas et quels sont les artistes qui t'inspirent?
Alors, les artistes qui m'inspirent le plus au niveau littérature, il y a un grand monsieur de la science-fiction qui s'appelle Pierre Bordage, pour qui j'ai une immense admiration et dont... Alors, c'est un auteur très, très prolixe, hein, j'ai pas pu encore lire toute son œuvre, mais j'en ai lu beaucoup et je sais que ses écrits très humanistes m'inspirent énormément. Autrement, dans les autres écrivains, il y a Pierre Lemaitre, hein, par exemple, qui est connu à la fois pour ses romans policiers et aussi pour ses romans de littérature blanche, hein, avec Au revoir là-haut, qui a eu le prix Goncourt, hein, il y a quelques années. Pareil, Pierre Lemaitre, pour moi, et, enfin, sans mauvais jeu de mots, est un vrai maître en littérature. Il y en a bien d'autres. Hein. Il y a aussi Marcel Pagnol, hein, dans les écrivains qui ne sont plus vivants, mais sont principalement ces trois écrivains-là. La musique ne m'inspire pas tant que ça. Je dirais que je m'en sers pour me concentrer et pour connaître un état, pas de transe, mais pas très éloigné en fait. Donc j'ai tendance à choisir plutôt des musiques électroniques qui vont me permettre de me concentrer sur mon histoire et vraiment de vivre l'histoire à travers mes personnages. Et donc c'est pour ça qu'en, par exemple, sur les deux extraits que tu m'avais demandé de choisir, j'ai choisi un extrait de musique électronique parce que je l'écoutais en boucle, notamment pour à la fin du tome 3 de la trilogie à Avencel. Donc mes inspirations musicales sont très très pauvres en fait.
Donc effectivement, la chanson dont tu parles, on l'écoutera à la fin de ton interview. Du coup, j'ai envie de te demander d'où naissent tes personnages? Comment naissent tes personnages? Quelles sont tes inspirations en général?
Alors, mes inspirations, c'est le monde autour de moi. Dans la trilogie Avencel, il y a beaucoup de géopolitique. Et c'est vrai que c'est un domaine qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et je lis beaucoup de revues, de journaux. Je suis l'actualité mondiale de près. J'ai aussi une grande passion pour l'histoire. Donc ça, c'est une source d'inspiration. Mais globalement, ce sont les gens. C'est la ville, leur parcours, ce qu'ils peuvent connaître comme drame, comment ils réagissent, leur capacité de résilience. Et ça, je dirais que ça, à mon avis, c'est quelque chose de vrai chez tous les auteurs d'imaginaire. parce que ce n'est pas parce qu'on écrit de la science-fiction, du fantastique, avec peut-être des extraterrestres ou des vaisseaux spatiaux, qu'on ne raconte pas des histoires humaines. Et je dirais que les littératures de l'imaginaire, c'est le contexte, le décor, qui sont différents des littératures blanches, mais nous racontons toujours des histoires humaines. Et par exemple, dans la trilogie Avencel, le personnage principal, Mathilde, est une jeune femme de 33 ans qui est climatologue, qui a vécu qui a un passé personnel très douloureux, puisqu'elle a, elle a perdu un bébé à la naissance, son mari est décédé dans un accident de voiture. Donc, ce sont des choses que l'on peut malheureusement voir dans la vraie vie. Le deuxième personnage principal de la trilogie Jonas est homosexuel. Et même s'il vit en Suède où la société est beaucoup plus ouverte qu'en France, par exemple, sur la cause homosexuelle, il a néanmoins souffert dans le passé et a été rejeté par sa famille, qui était une famille de protestants très rigoristes. Donc voilà, ça c'est aussi des histoires malheureusement que l'on peut voir dans la vie quotidienne. Donc moi, mon inspiration, clairement, ce sont les gens.
Oui, je pense que cette démarche-là permet aussi aux lecteurs de rentrer plus facilement dans l'histoire, aussi peut-être de s'identifier mieux au personnage, effectivement. Est-ce que tu t'inspires de ton vécu aussi, toi propre, ou tu préfères te détacher de ton vécu, justement, et de parler plutôt des autres ?
Alors, je ne parle surtout pas de moi. Et je me détache complètement de ma vie, de mon vécu, de mes expériences, parce que j'ai vraiment pas envie d'écrire une biographie. Et puis ma vie n'intéresserait pas grand monde, je pense, par un cercle. Et encore, je ne suis même pas sûre. Donc non, il faut... Je crois que l'erreur, justement, de tout auteur débutant, c'est d'écrire sur soi. Et en fait, non, ce que les gens veulent, c'est une belle histoire, une bonne histoire. Et il faut savoir la créer. Alors, probablement que de façon inconsciente, il y a des éléments de moi dans mes écrits, mais je sais que au départ, quand vous sortez votre premier roman, vous êtes d'abord lu par votre cercle proche, c'est-à-dire la famille et les amis. Et je sais que beaucoup d'amis m'ont dit, mais on a lu, on t'a pas vu dans le livre, enfin. Et je dis oui, bien sûr, c'est pas sur moi que j'ai écrit, c'est sur une histoire et des personnages différents.
Alors je vais te laisser effectuer ta deuxième lecture. Je te laisse présenter cet extrait.
Alors en fait, je n'écris pas que des livres. Je réponds aussi à des appels à texte de nouvelles. Le milieu de l'imaginaire est très dynamique concernant la parution de nouvelles dans des revues ou des anthologies. Et pour moi, c'est un excellent exercice d'écriture parce que la nouvelle est un format court, hein, c'est quelques pages. Et en quelques pages, il faut apprendre à dresser un décor, un contexte et créer un ou deux personnages qui aient une véritable épaisseur. Et en quelques lignes, il faut arriver à intéresser le lecteur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et je le considère comme un très bon exercice. Et en plus, j'aime beaucoup ça. Donc, ce que je vais vous lire là, c'est un extrait d'une nouvelle dont le titre est « Dessine-moi un poisson » et qui est paru dans la revue Éterval d'avril 2019, le numéro 14. Éterval, c'est une revue d'imaginaire qui est une très belle revue avec des nouvelles de très grande qualité que je vous recommande fortement, que vous pouvez trouver sur internet en format papier ou numérique. Voilà, alors c'était l'instant pub pour la revue Éterval. Dessine-moi un poisson. Un silence inhabituel régnait, rompu uniquement par le léger ronronnement de la climatisation. Symphonie s'éveilla dans une chambre inconnue, plongée dans la pénombre. La mémoire lui revint. Elle n'était plus chez elle à Berlin, mais en vacances en Bretagne, près de l'endroit où est né papa, il y a très longtemps. La joie l'envahit. Aujourd'hui, elle verrait la mer. Elle glissa son doudou, usé par les années, sous l'oreiller, et bondit hors du lit. Les constantes de la pièce clignotaient sur l'écran domotique. Température 20 degrés, taux d'humidité 54%. Elle effleura une des touches de commande. Le volet extérieur coulissa vers le haut, la fenêtre s'entr'ouvrit, Une brise fraîche s'immissa dans la chambre. Elle gonfla à fond les poumons. Cela sentait bon la vanille. D'après le monsieur du dôme de vacances, un très grand bonhomme qui les avait accueillis à leur arrivée dans la nuit, il parfumait l'air tous les jours d'une senteur différente. Elle enfila son legging et son t-shirt bleu, ses sandales transparentes, passa les doigts dans ses longs cheveux blonds, puis sortit dans le couloir. Le bungalow était bien plus petit que leur gigantesque appartement situé tout en haut de la tour Manhauser. Le confort était réduit sans robots domestiques, mais cela faisait aussi partie du charme des vacances selon papa. Symphonie s'en fichait. « Moi, je veux voir la mer. » Elle gagna la cuisine, une pièce au mur en inox, occupée par une table centrale blanche et inondée de lumière. Par l'unique fenêtre, se devinait le parc avec ses grands arbres. « Bonjour, Symphonie, que puis-je faire pour vous ?» La voix de l'assistante domotique. « Comment s'appelait-elle déjà ?»« Ah, Nina. »« Je vais prendre le petit déjeuner, Nina. » Une des façades techniques en inox se modifia. Un panneau coulissa à sa hauteur. Elle saisit le plateau, le posa sur la table et s'assit sur un des tabourets de bar, les pieds dans le vide. Œufs brouillés, jus d'orange, tartines de pain beurré. « Est-ce que je pourrais avoir des céréales, Nina ?»« Votre mère ne l'a pas programmé. » »« Ah, au moins, elle aurait essayé. » Elle commença à manger ses œufs, aussi fat qu'à Berlin. « Tu sais, Nina, j'ai hâte de voir la mer. J'ai regardé des tas de vidéos dessus. Avant, il y avait plein de poissons. » De toutes les tailles et de toutes les couleurs. Des plongeurs nageaient avec eux au milieu du corail. C'était magnifique. Si seulement elle avait pu se joindre à eux. Les derniers poissons ont disparu des océans en 2047, commenta Nina. Juste avant sa naissance, comme un fait exprès. C'est parce qu'on a mal cherché. Elle but une gorgée de jus d'orange et ajouta. Moi, je les trouverai. Je les connais tous. Je suis une experte. C'est ce que lui disait son papa quand il venait l'embrasser le soir dans son lit. Sur les murs écrans de la chambre de Symphonie défilaient en ronde perpétuelle les habitants des mers du monde. Le programme d'aujourd'hui ne comporte pas de visite à la mer. La tartine s'arrêta à quelques centimètres de sa bouche. Symphonie la reposa sur le plateau. Pourtant, papa avait promis. Sa gorge se noua, elle pinça les lèvres. C'est quoi qui est prévu ? Réveil de vos parents dans 2h33. Participation à 13h au barbecue d'accueil organisé pour les nouveaux arrivants. Visite du musée des arts contemporains de Carnac. Réception au bord de la piscine à partir de 19h. Et pour moi ? Même programme. Son cœur se serra. Ce n'était pas aujourd'hui qu'elle verrait la mer. Demain ? Elle soupira, joua avec sa cuillère. Vous devriez terminer votre repas, Symphonie. Elle sauta de sa chaise. Je n'ai plus faim. Ouvre le recycleur. Elle y glissa le plateau puis se frotta la paume des mains contre son legging. « C'est loin la mer, Nina ?» Une carte s'afficha sur la façade technique. Symphonie s'en approcha en plissant des yeux. Elle reconnut le dôme de vacances à sa forme circulaire, avec la multitude de bungalows à l'intérieur, le parc central et la demi-douzaine de piscines. La carte se modifia, le dôme rapetissa et la mer apparut à gauche toute bleue. Son pouce accéléra. Elle se trouvait vraiment très près. À 427 mètres, direction ouest-sud-ouest. Cela ne lui évoquait pas grand-chose, mais elle se fiait à la carte. « J'ai le droit d'aller où, Nina ?» À Berlin, par mesure de sécurité, il lui était interdit de sortir seule de l'appartement, même pour se rendre à son école à 2 rues de chez elle. « Votre mère n'a pas programmé de restrictions. » Elle sourit. « On dirait bien que je vais aller voir la mère aujourd'hui. »
Alors, je trouve qu'il y a un petit côté de l'histoire de Wall-E. Alors, je sais pas si tu as vu ce dessin animé-là, et voilà, mais je trouve qu'il y a des similitudes, en tout cas.
Oui, oui, c'est... Wall-E, c'est fantastique. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. Non, en fait, cette nouvelle se passe dans quelques décennies, et c'est l'histoire d'une petite fille qui adore les poissons, sauf que tous les poissons ont disparu des mers et des océans à cause de l'acidification. Et cette petite fille qui arrive en Bretagne rêve d'en trouver un, d'être celle qui va retrouver le poisson. Donc c'est une nouvelle assez courte, mais pour moi il était important de dire attention, nous sommes en train de... Oui, il y a le réchauffement climatique, mais nous sommes en train aussi de nous tuer progressivement en tuant la vie dans les mers et les océans. Voilà.
Mais en tout cas, j'ai été touchée parce que c'est pareil, Wall-E, je l'ai regardé plusieurs fois. Je trouve que c'est très bien mené. C'est autant touchant que ça sensibilise justement sur le problème de comment se comporte l'humain et tout ça. Et je trouve que, ouais, il y a beaucoup de similitudes. C'est super chouette. Alors du coup, est-ce que tu as des projets à venir? Alors peut-être d'autres histoires, peut-être pas des trilogies ou quoi que ce soit, mais d'autres projets. Et où est-ce qu'on pourra te rencontrer prochainement? Ben, je sais que le coronavirus en ce moment, c'est compliqué. Tu as sûrement des rendez-vous, des événements qui ont été reportés. Donc je te laisse en parler un petit peu si tu veux bien.
Alors, concernant mes projets, donc là, je viens d'écrire deux nouvelles. Donc, toujours le premier jet. Donc, je laisse toujours reposer quelques semaines avant de reprendre la phase de correction pour avoir du recul et ne plus avoir d'affect, en fait. Parce que quand on écrit une histoire, on est très impliqué. Et pour la corriger, il faut savoir beaucoup supprimer de passages peu élégants. Donc, il faut beaucoup de recul. Parallèlement, j'écris mon prochain roman, donc le quatrième, qui est un roman qui s'adressera à la jeunesse à partir de 12 ans, mais tout public, et qui se passera cette fois-ci non plus en Suède et en Angleterre, mais par chez nous, dans les Monts d'Arrée, plus exactement dans le Lyonnais-Lès. Donc ce sera l'histoire de quatre enfants qui sont dans une colonie de vacances pour enfants handicapés et qui vont vivre une aventure fantastique dans le Lyonnais-Lès, puisqu'ils vont ils vont empêcher la porte des enfers de se fermer, et il va falloir tout de suite enfin rapidement qu'ils arrivent à la refermer. Donc ça, c'est en cours d'écriture. Alors, mes projets à venir, là, dans les 3-4 mois à venir, rien, puisque tout a été annulé du fait du contexte. Alors, j'espère très fort que les Imaginales, qui est un des salons les plus importants européens sur les littératures de l'imaginaire et qui se passe tous les ans à Épinal dans les Vosges au mois de mai, ne sera pas annulé, puisque je dois y dédicacer avec mon éditeur. Il y a plein d'autres salons dédicaces qui ont été malheureusement annulés. Donc, je citerai par exemple les Mystériales à Redon. L'année dernière, donc j'espère que cette année je serai en mai ou en juin, de la même façon que les Imaginales, elles ne seront pas annulées, et donc je pourrai m'y rendre. Et il y a bien sûr toutes les manifestations organisées avec le collectif. Je devais faire une rencontre d'auteurs au Café Librairie Guénini au Fou fin novembre. Donc bien sûr avec Amélie la libraire, j'espère que nous pourrons trouver une date au printemps. Où cette rencontre pourra se passer sans tension et avec le plus de monde possible.
Alors oui, effectivement, l'année prochaine, on va faire en sorte de pouvoir organiser le salon à livre ouvert qui a été effectivement reporté cette année. On devait effectivement t'accueillir à Guénilly au Fou le 21 novembre. C'est pareil, ce sera reporté effectivement. Voilà, on invite les auditeurs à se renseigner à ce sujet-là sur le site www.collectifsynergie.com et sur notre page Facebook Collectif Synergie. Et du coup, voilà, se tenir informé aussi. Alors tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais où est-ce qu'on peut se procurer tes ouvrages?
Alors, pour les Finistériens, ils sont en librairie, notamment pour Brest, la librairie Dialogue. Ils sont aussi la librairie Ravie à Quimper, au Passager du Livre à Landerneau et bien sûr au Café Librairie Guénilly au Fou. Autrement, si votre libraire ne les a pas, il peut les commander, il n'y a aucun souci. Et ils sont également commandables sur le site de mon éditeur Roy's Édition. C'est un éditeur qui est en Lorraine, qui n'est pas très bien éloigné de nous. Donc voilà, mais ils sont aussi sur tous les sites marchands habituels. Comme Amazon, Fnac, enfin, on peut se les procurer où on veut, en privilégiant quand même, si possible, les librairies indépendantes.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton éditeur et nous donner l'adresse de ton site aussi, parce que je crois savoir que tu as un site aussi personnel.
Alors, mon éditeur, c'est Roy's Édition. Ah, pas évident à prononcer ni à écrire. C'est 2 R O Y Z Z.
Donc la trilogie, c'est la trilogie Avencel, et mon site, c'est charlotte-bona.com. Et j'ai également une page Facebook auteur et une page Instagram auteur.
Alors, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais dire aux auditeurs?
Alors, je vais parler un peu pour ma paroisse, mais aussi pour celle de tous les auteurs en France, les auteurs français. J'ai envie de dire, Noël arrive. Et si vous avez envie d'offrir des livres de qualité, pensez aux auteurs français, pensez aux petites maisons d'édition, n'hésitez pas à aller sur leur site, à aller sur les blogs de littérature. Alors, moi, c'est plutôt les blogs de science-fiction, mais n'allez pas forcément acheter le dernier livre à la mode. Mais l'année 2020 était vraiment une année extrêmement difficile pour les auteurs professionnels. Donc, moi, j'ai un autre métier en parallèle, donc ça va, mais j'ai certains de mes camarades qui vivent ou vivent très mal de leurs plumes. 2020 était une catastrophe pour eux, mais également pour les petites maisons d'édition qui vivent essentiellement grâce au salon, puisque les livres se vendent beaucoup en salon. Donc, bah voilà, faites un beau geste, regardez un petit peu ce qu'écrivent les auteurs français et parcourez le catalogue des petites maisons d'édition.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Charlotte, d'avoir répondu à l'invitation et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup à toi de l'invitation. À très bientôt aussi et passez d'excellentes fêtes de fin d'année en famille.
Nous terminons cette interview avec la deuxième chanson choisie par Charlotte, à savoir Ziklop de Kösselsdorf.
Toutes les informations concernant le salon littéraire à Livre Ouvert sont disponibles sur la page Facebook à Livre Ouvert Brest, le site consacré, ainsi que sur le site du collectif www.collectifsynergie.com. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous renseigner sur le salon courant 2021. Je vous donne rendez-vous le mois prochain afin de découvrir les univers musicaux de Olivier Rech et Olivier Huguen. Bonne soirée à tous !